Nous allons essayer de commencer cette soirée. Je vous remercie d'être aussi nombreux, c'est formidable. J'espère que jusqu'à la fin de l'année, vous serez aussi nombreux, parce qu'en général, ça s'égrène au fil du temps. Voilà. Alors, ce soir, c'est notre première soirée de séminaire. Première soirée de séminaire d'alcool, mais par prudence, je rappelle, en début plutôt qu'en fin de soirée, faire deux annonces. D'abord, le séminaire Champ Lacanien sur le thème inégalité, qui commencera le jeudi 17 octobre. Y interviendront Anita Eskovitch, David Derna et Hélène Duterrier sur inégalité homme-femme. Et puis, naturellement, les journées nationales sur Amour et Haine qui auront lieu à la Maison de la Chimie les 30 novembre et 1er décembre. Voilà. Alors, ce soir, c'est le séminaire. Hein? Le 12 octobre. Et l'ouverture, merci Colette, et l'ouverture du Collège clinique le 12 octobre.
Très bientôt.
Donc, je sais.
Et puis, je veux dire que l'ouverture, l'après-midi, aura lieu ici. Les annonces vont suivre.
C'était compliqué.
C'est nouveau.
Oui, c'est nouveau.
Alors, allez-y, Jean-Jacques. Précise, parce qu'il y a c'est annoncé à l'amphithéâtre Garcin à Sainte-Anne.
D'accord. L'annonce va avoir lieu, vous aurez le papier demain matin.
D'accord.
Qui précisera que l'après-midi
de
l'ouverture du collège clinique aura lieu ici même.
Je peux donner la raison peut-être. Il y a eu tellement de complications, j'avoue, sur les uns qui voulaient ça, les autres qui voulaient pas, le nombre de personnes présentes. On est passé de 10 nouveaux à 100. Donc là, à un moment donné, la salle qui a été réservée du coup est petite, et maintenant, tant mieux, il y a beaucoup de monde. Et la grande salle n'est pas réservable. Voilà.
D'accord. La raison. Bon, très bien.
Non, je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà.
Alors, le séminaire école, le thème du séminaire école de cette année. Est-ce que je peux commencer? Le thème du séminaire école de cette année, actualité de la névrose, réinterroge cette catégorie clinique plus ancienne que la psychanalyse elle-même, mais l'interroge à la lumière de notre expérience actuelle. Comme vous avez pu le lire dans l'argument, la clinique, en effet, change et la forme des symptômes diffère de celle rencontrée par Freud et Lacan. Qu'est-ce qui justifie encore l'usage du terme de névrose? Que devient même la névrose de transfert, conçue par Freud comme une maladie artificielle nécessaire à la guérison? Guérit-on même de la névrose, selon les avancées de l'enseignement de Lacan? Après avoir suivi Freud sur les structures cliniques héritées de la psychiatrie, névrose, psychose et perversion, Lacan est progressivement passé de la structure du langage à celle des discours pour pousser par son orientation vers le réel à la structure du neurone. C'est un résumé actif, mais qui sera développé tout au long de l'année. Quels effets dans la direction de la cure et pour la formation du psychanalyste et les avancées de Lacan? Sur le thème de la soirée, de cette soirée, le diagnostic de quoi, pourquoi faire, vont intervenir nos collègues, Anne Lopez, psychanalyste à Paris, qui a choisi, dans un but logique, je suppose, de faire glisser le pourquoi faire en le diagnostic à quoi ça sert. Ensuite, Radu Turcani, nous n'avons pas respecté l'ordre alphabétique, Radu Turcani, psychanalyste à Paris, fait résonner le signifiant diagnostic, il écrit IC, H-I-C, pour déplier les trois IC, de l'analysant, de l'analyste et de l'autre, que nous pouvons rencontrer dans notre pratique. Son titre, diagnostic, ou comment se, entre guillemets, entre parenthèses, se planter dans, entre parenthèses, le décor de la cure analytique. Et enfin, Bernard Nominé, psychanalyste à Pau, interroge la fonction de psychanalyse dans le diagnostic à la lumière du nœud boréal. Alors, je passe la parole à Anne.
Oui.
Tu passes le diagnostic.
Tu me prêtes je te le donne. Bon, à quel point je connais ça. Ça va, là, vous entendez? Ou c'est trop fort? Non, ça va. Alors, dans un premier temps, pour répondre légèrement mais sérieusement à cette question, je me suis dit que cette question du diagnostic servait à faire travailler le psychanalyste. En effet, cela l'oblige à penser sa pratique, à se frotter aux textes référents de Freud, de Lacan, de quelques autres, à émettre quelques points de vue personnels, mais aussi quelques questions non résolues pour lui, qu'il peut reprendre dans un travail personnel. C'est un travail donc qui ne s'arrête jamais, et l'école sert à soutenir et stimuler cette élaboration, afin que l'analyste ne ronronne pas avec un savoir dont il s'assurerait une fois pour toutes, fermant ainsi toute ouverture à l'inattendu, à la surprise, à tout ce qui n'est pas prévisible. Freud demandait à suspendre tout savoir antérieur dans la rencontre première avec un patient. Sommes-nous sûrs de le faire? Et est-ce si évident que cela? Cette demande de Freud pourrait faire penser que l'analyste n'a besoin que de ses oreilles et d'aucun savoir sur la cause psychique. Il suffirait donc d'entendre, alors qu'en fait, il y a une réelle nécessité à en savoir beaucoup pour entendre un patient dans une première rencontre. D'ailleurs, il me semble très important de contrer un tant soit peu les pratiques actuelles multiples d'écoute qui n'ont rien à faire avec la psychanalyse. Certains, après quelques temps en analyse, veulent s'installer sans jamais s'être frottés à la souffrance et au délinéament des psychoses et des névroses, autre que la leur. C'est quelque chose qu'on constate avec inquiétude, comme tout est possible à qui le veut, formule de négation de l'inconscient. Lacan nous rappelle sans cesse la question primordiale qui souvent nous réinterroge sur ce qu'est le psychanalyste, un psychanalyste, en soulignant qu'aucun ne l'est, paradoxe ambigu, puisqu'il est très important qu'on se dise psychanalyste lorsqu'on reçoit quelqu'un. À ce sujet, un médecin m'avait adressé une femme qui m'a demandé ce que j'étais, le médecin l'ayant adressé à une psychologue. « Vous êtes psychologue ? Je suis psychanalyste, lui ai-je dit. » Sa réponse a été enthousiaste. « C'est bien de vous rencontrer, je suis contente. » Tant de réflexion, mais ça dure 10 ou 15 ans. J'ai ajouté « Vous pouvez arrêter quand vous voulez. » Réponse trompeuse, sachant que le transfert analytique vous mène en général beaucoup plus loin qu'une décision consciente. Réponse qui sous-entend la méprise du sujet supposé savoir, d'où notre jeu analytique part. Les entretiens préliminaires, s'ils servent à mettre en route le transfert, à cerner le ou les symptômes qui amènent le sujet à cette rencontre, nous servent également à élaborer, clarifier si possible la structure du sujet, qui ne s'ouvre qu'à partir des dits du sujet. Il semble relativement aisé de poser un diagnostic lorsqu'il y a des phénomènes de langage patents, présents, voix, hallucinations, délire, flou de la parole maniaque, réel démo du schizophrène, néologisme. Pourtant, les néologismes ne sont pas suffisants, me semble-t-il, pour signer une structure psychotique. D'ailleurs, Lacan en a utilisé et créé tout au long de son enseignement. Et puis nos jeunes actuels ne se privent pas d'en inventer, ce qui montre plutôt la vitalité de la langue. Certaines paroles et expressions signent parfois de façon claire la structure du sujet dans sa parole primesautière, comme ces mots, ces pensées d'un patient reçu à l'hôpital. Torpéteux, étrange sensation d'incertitude désistée de vivre, un point vide d'existence, un corps de place molle. Il est important de savoir devant des troubles graves, lorsqu'il s'agit de sujets psychotiques ou même de névrose, s'il nous faut faire appel à un psychiatre, à des médicaments ou parfois à une hospitalisation. Vu l'état actuel de beaucoup de services de psychiatrie, on est parfois préoccupé de savoir où et à qui adresser la personne, l'accueil actuel provoquant souvent des mesures coercitives, contention, isolement, etc. Lacan nous a appris à ne pas reculer devant la psychose, mais il faut bien se rendre à l'évidence que dans certaines conjonctures, il semble que la psychanalyse n'y peut mais, au moins dans un premier temps. Il y a aussi certains patients dont il est difficile de penser clairement le diagnostic, et parfois, il nous faut attendre très longtemps avant d'être sûr, qu'il s'agit de psychose ou de névrose. On parle d'ailleurs parfois de psychose non déclenchée. En tous les cas, les liens sociaux autres que par Internet sont parfois réduits à minima chez certains de nos patients, et nous pouvons, nous, instaurer pour certains sujets un lien social qui leur fait défaut. D'ailleurs, cela n'empêche pas un travail prudent qui peut continuer longtemps avant toute précision diagnostique, mais qui nécessite le psychanalyste à se poser la question quand même du diagnostic, à la réétudier, jusqu'à ce qu'il acquiert une certaine certitude qui se fasse jour ou non. Des choses sont parfois difficiles à cerner. Par exemple, et on le constate plus clairement chez les enfants, certaines expressions qui pourraient être prises pour des phénomènes de langage un peu curieux s'avèrent faire partie d'une façon, dans le terme de façonnage, une façon particulière propre au langage de la famille. Ou encore, des sujets ayant un ou des membres de la famille qui s'avèrent être très fous, et bien parfois leur langage se colore de cette folie. Et dans ces cas, il apparaît souvent que le patient en analyse met un temps très long à réaliser la folie de l'autre, car les passions, amour, haine, ignorance, font écran à la difficile prise de conscience, la folie faisant toujours peur. Mais l'amour peut aussi durer et des grands fous être très aimés. Nous en connaissons tous. Voir par exemple la folie d'amour de la femme pour son mari, peintre et créateur Gérard Garoust, dont je vous recommande le livre « L'intranquille, autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou ». Gérard Garoust pourrait d'ailleurs vous faire sa propre carte des lieux divers et variés des services de psychiatrie qu'il a fréquentés et vous en donner ses préférences. Petite incise en pensant à une journée sur « Amour et haine ». Il arrive que dans les premiers entretiens, le patient s'auto-diagnostique. On connaît plus ou moins les différentes manières dont les névrosés ont des réactions opposées. L'un se met sous une bannière identificatoire, l'autre refuse absolument d'être répertorié, comme Lacan d'ailleurs le laisse entendre lorsqu'il souligne l'aversion chez le névrosé à supporter même un nom. Ce n'est souvent cet autodiagnostic qu'une cumulation d'informations tirées d'Internet, et il ne me semble pas qu'il faille y attacher une valeur spéciale tant que nous ne sommes pas assurés nous-mêmes du diagnostic. J'ajouterai un mot sur les contrôles, puisque c'est une possibilité vivement conseillée lorsqu'on est en difficulté avec un patient sur différents plans. Ce peut être une question sur le diagnostic, mais aussi sur la direction de la cure. Prenons la question du diagnostic. Que fait le dit contrôleur? Il écoute bien sûr, mais il peut avoir sa propre opinion, parfois différente de l'analyste en contrôle, qui entend l'analysant. Il ne s'agit pas alors de convaincre, mais plutôt de se laisser porter par la parole jusqu'au bon moment, pour situer ou resituer les choses. Parfois, il s'agit d'une sorte d'aveuglement passager, dû à un point de cécité momentané, ou encore lié au fantasme ou au préjugé. Mais cette position du contrôleur est difficile à tenir de toute façon, car il ne peut en aucun cas se substituer à celui qui a la responsabilité de l'analyseur. Et je pense d'ailleurs que les contrôleurs, c'est un drôle de nom, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres, ou superviseurs, n'ont pas à précéder de manière intempestive le temps subjectif du contrôlé analyste, responsable de la cure qu'il mène. On peut également le renvoyer parfois à son analyse s'il s'embrouille avec sa propre subjectivité, celle de son patient. Parfois cela s'entend très clairement. Il me semble qu'on doit respecter le temps nécessaire d'élaboration qui peut être plus ou moins long. La question de la direction de la cure posée dans les contrôles est fort intéressante. Et ceci peut se produire à des moments très divers dans le temps d'une analyse. Ce sont parfois des questions sur la fin de l'analyse, sur le moment de passe, ou plus spécifiquement, sur quelque chose qui apparaît crucial et qui n'a pas encore été interprété. Je pense à cela dans certains cas où le fait d'en parler en contrôle permet à un autre moment de faire surgir l'interprétation spontanée de l'analyste, bien qu'on pourrait dire fomentée de par le travail du contrôle. Mais très souvent, les contrôles se réduisent à quelque temps d'un moment qu'on suppose difficile pour l'analyste dans la cure qu'il mène. Sans que ce soit rigidifié outre mesure, ce qui me semble plus bénéfique sont des contrôles sur un long terme, ou un ou quelques cas sur plusieurs années. Peut-être ne sommes-nous que peu exigeants dans ce domaine, mais c'est sans doute une marque des temps actuels, du rapide avant tout. De plus, les conditions financières pour de jeunes analystes sont lourdes. Peut-être n'avons-nous les uns les autres pas les mêmes points de vue sur cette question, et la manière de les effectuer ces contrôles dépend singulièrement du plus particulier de chaque analyste, et sans doute de son style. Alors, je voudrais aborder maintenant la question des reprises d'analyse, pas dans le sens de repriser un morceau de tissu, enfin peut-être aussi parfois. Lacan a parlé, me semble-t-il, de contre-analyse. Ce n'est peut-être pas l'expression exacte, je n'ai pas retrouvé exactement l'expression. Pour certains analysants, quand leur analyse les embarque sur une voie erronée. Une psychiatre à l'hôpital interprétait à jet continu toute parole et acte des enfants qu'elle recevait. Et tu as pensé cela parce que, si tu me dis cela, c'est parce que, tu as fait cela, c'est parce que, il y avait là une sensation d'étouffement paranoïaque, reproduisant pour un des enfants qu'elle m'avait adressé, justement, la paranoïa du père de cet enfant. Le silence auquel je me suis astreinte a permis, après un long champ de bataille dans mon bureau, qu'il puisse dire que son père était fou. Paranoïa dirigée, nous disait Lacan, mais qui équivaudrait à un analyste un peu persécuteur. Bien sûr, parfois, il y a des moments où on aperçoit chez le patient une sorte de moment paranoïde, mais il semble plutôt que c'est un coloris teinté de paranoïa qui ne signe pas une structure. Quant à l'analyste qui serait éventuellement persécuteur, on peut penser que ce serait un défaut de sa propre analyse qui le fixerait sans doute à la vérité avec un grand V. Ce qui est souvent surprenant dans ces reprises d'analyse, enfin le terme n'est pas beau, mais je ne sais pas comment en dire ça, nouvelle tranche peut-être, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre l'idée que l'on a de ce qu'est l'analyse et la rencontre de là où en est l'analysant. Dans cette optique, il y a les plus grands écarts, et parfois on se pose même la question d'un trajet qui n'aurait pas fait entrer le sujet dans une psychanalyse, un seuil d'entrée mou, sans franchissement. Dans certains cas, l'entrée n'a pas provoqué d'éveil à l'inconscient, mais plutôt un ronronnement délétère. Mais si ces patients viennent nous voir, c'est que quelque chose les tracasse encore, au point de vouloir que cela change. Et on peut reprendre la suite du travail, ou sa reprise avec une certaine exigence, pour qu'il n'y ait pas reproduction de l'endormissement et du ronronnement. Il faut alors être bien sûr qu'au-delà des symptômes restants, il y a eu constitution du symptôme analytique comme énigme, non-savoir, qui suppose le sujet supposé savoir. Là encore, les situations sont variées et variables, bien sûr. Mais il me semble que l'ennui qui fait espérer autre chose, qu'espère toujours l'ailleurs du névrosé, jamais à la bonne heure, n'est vraiment pas un critère du bougeant que peut et doit provoquer une analyse. Certaines reprises d'analyse posent aussi parfois la question du diagnostic. Qu'en est-il des névroses actuelles, puisque c'est le titre de nos soirées du séminaire école? Il y a des mots ou des étiquettes qui font florès dans le langage courant. Pour en citer quelques-uns, le terme « procrastination » est devenu à la mode comme expression, « pervers narcissique », les « TOC », les « bipolaires », et les mots péjorativement employés d'hystéro, de parano, de mytho. Même si leur usage ne correspond pas à ce que cliniquement nous saignons, il me semble que ce sont les effets d'une certaine vulgarisation de la psychanalyse. Entre nous utilisons toujours les termes habituels des structures cliniques, hystérie, obsession, perversion, phobie, classification déjà ancienne, mais dont rien ne permet de dire qu'elles sont caduques, d'autant qu'il paraît tout à fait important d'en savoir les axes et surtout d'apprendre, bien que ce mot n'ait pas l'impact d'une connaissance universitaire, d'apprendre lorsqu'il s'agit de névrose à mettre en route une analyse et le transfert. Je pense que ce « apprendre » à écrire en deux mots, à accent « prendre », nécessite le travail de l'analysant en dehors des cures qu'il mène et qui se fait non pas d'un cumul de savoir, mais à partir justement du non-savoir, d'un questionnement sur un non-savoir, un point resté obscur. Lacan a beaucoup travaillé les différentes structures cliniques de la névrose. Pensons à sa relecture du cas d'Aura, de l'homme Aura, avec la jouissance ignorée de lui-même, jusqu'à l'analyse de la position de Sade, dont il a fait un emblème du masochisme, à l'aune à la lecture de la vie de celui-ci. Pourtant, au fur et à mesure de son enseignement, Lacan parle moins des structures cliniques, ce qui ne nous empêche aucunement d'y avoir recours dans le travail de notre école. À partir de sa formulation sur le non-rapport sexuel, donc dans les années 70, rien ne s'écrit entre un homme et une femme que l'objet pulsionnel lié au fantasme et qu'une répartition de partenaires symptômes. Lacan va faire un effort constant pour en logifier les conséquences de ce non-rapport. Cette formulation du non-rapport sexuel, Lacan nous dit dans l'étourdi qu'il l'a inféré à partir de l'ensemble des dits de Freud. Puis il a travaillé plus spécifiquement le tort de la névrose et ses différentes mises à plat pour ensuite avoir recours au nœud borroméen, cherchant ce qui peut suppléer au nouage par autre chose que le nom du père. En grande déficience actuellement, en en faisant un symptôme possible parmi d'autres. Dans la suite de nos séminaires écoles, il serait intéressant qu'on puisse avoir un éclairage sur notre façon d'utiliser ces repères de Lacan, et le faisons-nous. Le diagnostic est, me semble-t-il, un moyen de prendre quelques précautions et prudences pour éviter à certains patients le pire pour lui-même ou pour les autres, suicide ou passage à l'acte. Savoir un ou plus souvent une analysante hystérique n'allège guère le travail en train de se faire dans la cure. On peut bien sûr savoir la dérobade hystérique, savoir le désir insatisfait. Il faudra tous les temps de la cure pour arriver à une satisfaction. Parfois la dérobade est difficilement évitable. Un départ qui, dans le meilleur des cas, sera possiblement un retour. J'ai eu dans mon expérience personnelle plusieurs départs comme cela, intempestifs, dont j'ai été surprise. On peut se dire que c'est un moment particulier dédié et fuite et défense devant une vérité en train de se mettre à jour, devant cet obscur objet du désir, encore désir de l'autre. De même, dans la névrose obsessionnelle, on a beau savoir très présent le doute, la cisaille de la pensée, le désir impossible, cela n'assure en rien de l'efficace de la cure. Alors bien sûr, une fois posé le diagnostic, tout reste à faire, et surtout, ce moment crucial des entretiens préliminaires, qui d'une certaine façon va conditionner la mise en route et le transfert et le déchiffrage de l'inconscient à partir de l'énigme que se pose l'analysant dans ses débuts, c'est-à-dire pas seulement avec la plainte de ses symptômes, mais une certaine demande sur le pourquoi qui permet d'instaurer le sujet supposé savoir, veine qui dépend du patient. Le diagnostic, s'il est nécessaire, oublie la spécificité de chaque un. On donne une étiquette qui ne tient pas compte du plus singulier de chaque un. Cela sans doute rassure celui qui la donne, mais c'est une position qui inverse absolument le trajet d'une psychanalyse, puisque par le diagnostic on dit « tu es cela », et dans l'analyse, le psychanalyste permet à l'analysant en fin de parcours de se dire « je suis cela, symptôme ». Tout part pour le futur analysant d'un non-savoir qu'il va interroger tout au long de l'analyse.